Chapitre 5. Le soir du jour où Bachelin avait apporté au château de Beaulieu deux nouvelles également mauvaises, celle de la perte du procès et celle du séjour de Gaston à Paris, la marquise, encore tout étourdie d'un si rude coup, était assise au fond de sa bergère, dans le grand salon donnant sur la terrasse. Elle réfléchissait profondément et ses impressions douloureuses se trahissaient sur son visage. Le marquis, en entrant brusquement, arracha la bonne dame à ses tristes pensées. Elle tressaillit, regarda un instant son fils avec inquiétude, comme si elle se fût attendue à un nouveau malheur. En le voyant, les yeux calmes, la bouche souriante, elle poussa un soupir. « Qu'est-ce donc ? » dit-elle. « Ce sont nos cousins de Préfond qui arrivent, ma mère, » répondit le jeune homme. « Le break vient de passer la grille, il entre dans la grande avenue. » En effet, dans l'air apaisé du soir, le bruit des roues grinçant sur le gravier se faisait entendre. La frileuse marquise se couvrit la tête d'une écharpe en dentelle, s'entoura de son châle et, traversant le large vestibule d'allée, meublé de hauts bahuts en poirier sculpté et tendu de vieilles tapisseries à grands personnages, elle s'avança sur le perron. Le break, décrivant une courbe savante, venait de s'y arrêter. Une tête rieuse, coiffée d'une toque garnie de lophophore, apparut brusquement à la portière. Une main gantée de peau de Suède s'agita violemment, tandis qu'une voix fraîche et sonore criait « Bonjour, bonjour tous !» Le jeune marquis était déjà à la voiture. Un flot soyeux en sortit avec une extrême vivacité, laissant apercevoir sur le marchepied une petite bottine en peau mordorée, surmontée d'une jambe charmante, moulée dans un bas de soie gris. Et la baronne de Préfond en personne bondit dans les bras de la marquise, l'embrassant et disant d'une voix entrecoupée « Ah, ma tante, que je suis contente! Ah, ma bonne tante, il y a si longtemps! Et vous, mes bons amis !» Et se jetant avec expansion dans les bras de mademoiselle de Beaulieu, elle recommença ses tendres exclamations, accompagnées de vives caresses. « Ma chère Claire, il me semble qu'il y a un siècle !» Puis, sans hésiter, elle passa à Octave, par qui elle se laissa embrasser sur les deux joues. Après quoi, elle échangea avec lui un vigoureux shake hands à l'anglaise, en riant, en faisant bruire sa robe, en reprenant respiration au travers de ses cris de satisfaction, en levant d'assaut en un instant le château et ses habitants, avec une joie affectueuse et débordante. Puis, tout d'un coup, redevenant sérieuse, la baronne s'écria « Ah, mon Dieu, et mon mari ?» Elle chercha vivement autour d'elle. « Est-ce que j'ai déjà égaré mon mari ?» Une voix douce lui répondit « Me voici, cher ami. J'attendais patiemment la fin de vos effusions pour saluer ces dames à mon tour. » Et sortant de l'ombre, un jeune homme d'une trentaine d'années, correctement vêtu d'un costume de voyage, le sac en bandoulière, apparut en pleine lumière et, avec une politesse souriante et tranquille, s'approcha de la marquise et de Claire. « Eh bien, saluez !» reprit vivement la pétulante baronne. « Là, c'est fait! Maintenant, allez surveiller le débarquement de mes caisses. Je vous recommande spécialement la grande boîte noire où sont mes chapeaux. Vous m'en répondez sur votre tête ?»« Oui, cher ami, » répondit paisiblement le baron. Et se tournant vers Octave qui lui serrait la main, « 19 colis, mon ami » ajouta-t-il avec un sourire résigné. 300 kilos d'excédent. Je crois que ma femme transporte de l'artillerie. » Les dames rentraient dans le salon. La baronne se penchant vers la marquise. « Ah, ma chère tante » chuchota-t-elle avec volubilité en levant les yeux au ciel. « Que de choses nous avons à nous dire !» Et serrant les mains de la marquise d'un air attendri, « Vous savez que nous vous aimons et que rien de ce qui vous touche ne nous est indifférent. » Et comme Madame de Beaulieu regardait avec inquiétude, Claire déjà attentive et prêtant l'oreille, « Oui, je sais. Enfin, mon mari vous dira tout. » Et se jetant sur Claire, comme pour effacer l'effet de ses imprudentes paroles, « Nous allons en Suisse, tu sais, mais nous n'avons pas voulu passer si près de Beaulieu sans nous y arrêter. Nous vous resterons quelques jours, puis nous partirons en voiture et nous entrerons par le défilé des Verrières. « Hélas, notre pauvre armée de l'Est! Le baron a été blessé à joue dans le dernier combat d'arrière-garde, avec les badois de ce terrible Werder. Vous comprenez, pour moi c'est un pèlerinage. Mon mari s'est conduit comme un héros. Sur 200 hommes que comptait sa compagnie, de pauvres garçons gelés par la neige, une horreur. Il n'en a ramené que 80, et on ne l'a pas décoré. Il est vrai que nous sommes légitimistes. Ah, ce gouvernement, mes amis, quelle abomination! Par ici, croit-on que Gambetta se décidera à accepter le ministère? Et elle allait, la petite baronne, souriant, s'animant, devenant dramatique, caquetant comme une perruche, passant d'un sujet à l'autre avec une mobilité d'idées et une diversité d'expressions stupéfiantes. Un kaléidoscope vivant, changeant ses dessins et variant ses aspects instantanément. La marquise éclair l'écoutait, étonnée et étourdie. Dans le silence et le calme de la campagne, elles étaient devenues graves et recueillies. L'animation de cette Parisienne, avec ses allures bruyantes et envolées, leur donnait une sensation de vertige. Sans attendre la réponse à sa question, la baronne traversa le salon et, s'avançant vers une fenêtre, d'où la vue s'étendait au loin sur la vallée pleine d'ombre, au fond de laquelle flambaient les cheminées des hauts fourneaux de l'usine, jetant dans l'obscurité des lueurs d'incendie, elle s'écria, frappant dans ses mains avec une admiration enfantine, « Est-ce beau ? On dirait un décor d'opéra. Ah, la nature ! Êtes-vous heureux de vivre au milieu des champs et des bois ? La bonne existence, et comme elle conserve ! Regardez-moi, ma tante, et comparez avec Claire. Nous sommes du même âge, et j'ai l'air d'être sa mère. C'est la fatigue des bals, des dîners, des visites, des spectacles, l'énervement de la vie parisienne qui fane de la sorte. C'est un vrai travail que tant de plaisir. Vous souriez, ma tante. Vous allez me dire que mon mari et moi, nous pourrions faire autrement et passer 4 mois au moins dans notre terre de Bourgogne. Sans doute, mais le moyen. Le baron, qui est un savant, a son centre intellectuel dans la capitale. Il a ses assemblées scientifiques et l'académie. Ah, mon Dieu, l'académie ! Moi, j'ai 1000 obligations auxquelles je ne puis me soustraire, des relations à entretenir, des œuvres de charité à administrer. Et puis, enfin, ma fille, que je ne peux pas toujours laisser seule avec sa gouvernante. Et quand nous avons été 2 mois au bord de la mer, 2 mois en voyage, 2 mois à Nice, vous voyez ce qui reste. Ah, oh, je suis bien excédée, allez. Si nous nous asseyons. Et passant comme un tourbillon entre Madame de Beaulieu et Claire, la baronne alla s'enfouir au fond de la bergère de la marquise. Là, maintenant, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous faites ici? À quoi occupez-vous votre temps? Et Octave? Et votre voisin, le maître de forge? Vous voyez que je me souviens de ce que vous m'écrivez. Oh Dieu, qu'est-ce qu'on deviendrait si on n'avait pas un peu de tête ? Se pelotonnant dans son large siège, la baronne ferma doucement les yeux, s'apprêtant à écouter de tout son cœur sa tante et sa cousine. Il y eut un instant de silence et presque sans transition, comme un oiseau chanteur qui, après avoir lancé sa dernière roulade, s'endort au bord de son nid. La Parisienne, fatiguée par le voyage, laissa tomber doucement sa tête alourdie sur le dossier garni de vieilles guipures, et le souffle léger qui passait entre ses lèvres entrouvertes indiqua qu'elle cédait au sommeil. La marquise et Claire échangèrent un bienveillant sourire, et, prenant chacune leur ouvrage, attendirent le réveil de la charmante femme restée si enfant. La baronne de Préfond, née Sophie d'Encourt, ironie des dénominations, Sophie, ce nom de sagesse donné à cette folle, était la fille unique d'une sœur du marquis de Beaulieu. Elle avait été élevée avec Claire. Elle faisait partie au couvent du clan des nobles si rude aux petites bourgeoises. Et elle aussi avait connu l'héritière de M. Moulinet. Cœur d'ange, mais cervelle d'oiseau, elle passait sa vie à réparer par sa bonté le mal qu'elle avait fait par sa légèreté. Elle n'avait pas peu contribué à la haine qu'Athénaïs avait vouée à Mademoiselle de Beaulieu. C'était elle qui avait, dès le premier jour, surnommé Mademoiselle Moulinet la petite cacao. Et comme une bataille entre ses écolières de 13 ans avait failli s'engager, c'était Claire, grande, forte et plus raisonnable, avec une nuance de hauteur, qui avait mis le haut là. Athénaïs avait été plus irritée contre celle qui s'interposait que contre celle qui attaquait. Et puis, Mademoiselle de Beaulieu, par la fermeté précoce de son caractère, imposait à toutes ses compagnes. Elle était en quelque sorte l'incarnation de cette aristocratie qui rendait la vie si dure à la petite Moulinet. Ce fut elle qui, par sa supériorité, attira la rancune de l'enfant dédaigné. La vérité était que jamais Claire n'avait rien fait à Athénaïs, mais leurs deux natures étaient absolument opposées l'une à l'autre. Tout en cette patricienne offensait et froissait cette bourgeoise. L'élégance de sa taille, la blancheur de ses mains, la riche simplicité de son costume, jusqu'à son papier à lettres timbré d'initiales coloriées et les gants qu'elle portait pendant les récréations. Claire et ses amies se tutoyaient entre elles. Athénaïs affecta de les tutoyer toutes. Il y eut de terribles discussions dans ce petit monde en miniature. Sophie d'Anécourt, exaspérée, ne voulait pas supporter le tutoiement et disait « vous » à la fille du chocolatier. Claire, riant de ces distinctions qui lui paraissaient puériles, tutoya Athénaïs. Et celle-ci vit dans cette familiarité une injure. L'hostilité de la petite Moulinet n'échappa point à Claire. Elle affecta de n'en pas tenir compte, et à son insu peut-être, son dédain pour Athénaïs s'accentua. Entre Mademoiselle d'Hennecourt et Cacao, la guerre était incessante et aiguë. Un jour, Sophie, revenant du parloir, arriva dans la cour avec un sac de chocolat. Elle en offrit à toutes ses compagnes et, s'approchant d'Athénaïs avec un air obligeant, elle le lui tendit en disant « En veux-tu ? Oh, tu peux te risquer, il ne vient pas de chez toi, c'est du marquis !» La petite Moulinet blêmit de rage et, sautant sur le sac, l'envoya à la volée dans une fenêtre dont la vitre tomba en éclats sur le sable. Une bousculade s'ensuivit, au cours de laquelle Athénaïs, violemment poussée, se coupa la main sur un fragment de verre qui était resté fixé au soubassement du mur. La violence de sa colère, la peur de voir son sang couler, firent tomber la petite Moulinet sans connaissance. Par un revirement de sa nature primesautière, Sophie saisit Athénaïs dans ses bras, aida à la conduire à l'infirmerie, en s'accusant et en pleurant, désolée d'être la cause de tout ce mal. À partir de ce jour, la scène changea. Athénaïs se mit ouvertement à la tête du parti des bourgeoises et la cour fut divisée en deux camps, les nobles d'un côté, les riches de l'autre. Ses enfants grandissaient et leurs querelles avaient pris une allure discrète et sournoise qui sentait déjà les leçons du monde. Elle n'en était plus à se griffer avec les mains, mais elle se déchirait bien plus cruellement par la parole. Claire, hautaine et dédaigneuse, restait à l'écart et ne prenait pas part à la guerre. Elle n'en était pas moins exécrée. Entre elle et Athénaïs, il y avait une lutte sourde engagée. Il était établi que Mademoiselle Moulinet était l'antagoniste de Mademoiselle de Beaulieu et vraiment, les deux adversaires étaient d'égale force. Le père Moulinet était en train d'amasser une fortune colossale. On prétendait qu'il avait trouvé un procédé pour faire de la vanille avec du charbon de terre et qu'il remplaçait dans son chocolat le cacao par des amandes grillées. Cette chimie alimentaire lui rapportait chaque année des sommes immenses. Et dans le monde parisien, l'industriel commençait à compter comme une valeur financière. Il venait d'être nommé juge au tribunal de commerce et ses amis, quand on parlait de lui, hochaient gravement la tête en disant « C'est un homme très fort ». Moulinet, jovial et familier, disait volontiers en parlant de lui « Papa a le sac !» Au demeurant, fort vulgaire mais pas méchant, capable de rendre service à condition qu'il eût intérêt à le faire. Très désireux d'élargir le cercle de ses relations et d'épurer sa société, regardant toujours au-dessus de lui et jamais au-dessous. C'était ainsi qu'il avait réussi à toujours aller en montant. Un beau jour, il vint au Sacré-Cœur dans un admirable landau à deux chevaux, fit appeler sa fille au parloir et Athénaïs ne reparut plus au couvent. Elle avait alors 16 ans. Ses compagnes la rencontrèrent le dimanche au bois dans la superbe voiture de son père. Et, de loin, elle leur adressait des sourires, les reconnaissant avec empressement, comme avide de saluer du haut d'un si bel équipage. Quelques mois plus tard, Sophie et Claire rentrèrent également dans leur famille, et la guerre cessa, faute d'ennemis. Cependant, la haine s'était conservée vivace dans le cœur de Mademoiselle Moulinet. Elle suivait des yeux ses rivales. À l'opéra, de la loge de seconde que son père s'était procurée à grand-peine, elle voyait avec colère Mesdemoiselles d'Ennecourt et de Beaulieu trôner au premier étage dans une loge entre colonnes. C'était pendant les entr'actes un perpétuel va-et-vient de cavaliers élégants. Dans le salon du fond, on causait, on croquait des bonbons. Chez Moulinet, personne, le vide et le silence. Athénaïs se disait « Bien certainement, dans le nombre des visiteurs, il y en aura un qui se déclarera et qui épousera Claire. » La beauté de Mademoiselle de Beaulieu était devenue adorable. Elle avait une exquise blancheur de blonde. Et quand elle apparaissait en robe rose décolletée, sans un bijou, elle soulevait l'admiration. Ce fut Sophie qui se maria la première. Le baron de Préfond la demanda et le mariage se fit à Saint-Augustin en grande pompe. Ce fut une messe splendide à laquelle Mademoiselle Moulinet ne fut pas invitée. Cependant, quelques anciennes du couvent prétendirent l'avoir aperçue très voilée, accompagnée d'une femme de chambre et suivant d'un des bas-côtés la cérémonie. Cette reconnaissance offensive ne fut jamais prouvée. L'ombre d'un pilier protégea Athénaïs, dévorant du regard ses ennemis. Claire était demoiselle d'honneur et quêtait avec le petit vicomte de Pontac. Lorsqu'elle approcha de la place où Mademoiselle Moulinet avait établi son observatoire, celle-ci se perdit dans la foule et s'éloigna. Mademoiselle de Beaulieu, indifférente, ne remarqua pas ce manège. Elle continua sa quête en souriant avec douceur et ne se douta pas que, si les regards pouvaient tuer, elle fût tombée morte au milieu de l'église. Sophie mariée, le duc de Bligny partit pour Saint-Pétersbourg, l'existence de Claire était devenue très retirée. Et enfin, elle venait de passer 6 mois loin de Paris. Le souvenir d'Athénaïs était sorti complètement de son esprit. Et en regardant sommeiller doucement la baronne de Préfond dans la grande bergère, elle ne songeait plus aux querelles dont cette charmante et cervelée avait autrefois donné le signal. La porte du salon, en s'ouvrant, éveilla la baronne. Elle vit entrer son mari et Octave, et se dressant vivement sur ses pieds, avec toute sa lucidité en un instant retrouvée, « Ah, ciel, vous m'avez laissé dormir » s'écria-t-elle, et se mettant à rire. « C'est donc ici, comme dans les contes de fées, le château de la Belle au bois dormant. À peine arrivé, il faut fermer les yeux. Mais où est le prince charmant? Serait-ce vous, baron? Non, c'est Octave. Ma tante, pardonnez-moi, c'est l'air de votre pays qui est cause de tout. Il m'a fatiguée. On n'est pas habitué à Paris, à une atmosphère de cette qualité. » « Ce n'est rien, dit la marquise, tu as été battue de l'oiseau. C'est le premier effet, tu t'y feras. » Le baron s'était approché avec sa gravité tranquille. « Cher ami, je viens d'exécuter vos ordres, j'ai fait rentrer vos bagages. Tout le château est encombré. »« C'est bien, répondit la baronne, avec l'air d'une reine satisfaite de son peuple. » « Veux-tu que je te montre ton appartement ?» demanda Claire en voyant la baronne debout, indécise. « Volontiers, » dit la jeune femme. Et prenant un sac de cuir rouge timbré de ses armes qu'elle avait posé sur un fauteuil en entrant, elle adressa un coup d'œil à son mari. Celui-ci, empressé, s'approcha pour la débarrasser, mais elle, retirant le sac avec vivacité, « Non, pas vous, » dit-elle, « vous êtes trop distrait, et cela veut des ménagements. » « Tenez-vous, Octave !» Et une seconde fois, du regard, elle montra la marquise à son mari. « Cher ami, très flatté de votre confiance !» riposta Préfond avec un sourire. « Allez, Octave, mon bon, faites la corvée. Moi, je tiendrai compagnie à votre mère. » La baronne, heureuse d'avoir été comprise, fit un petit signe approbateur au baron, et prenant Claire par le bras, comme pour être plus sûre qu'elle ne troublerait pas en restant le tête-à-tête qu'elle avait ménagé à son mari avec la marquise, elle sortit en fredonnant un air. Le baron, grave et recueilli, fit quelques pas en silence. La marquise, enfoncée dans sa bergère, regardait vaguement devant elle. Le salon était sombre. Le feu, que par cette fraîche soirée d'octobre elle avait commandé d'allumer, pétillait dans la large cheminée de granit rose et faisait, par le mouvement de ses flammes, danser de grandes clartés au plafond. La marquise se disait que peut-être les nouvelles apportées de Paris par le baron étaient meilleures que celles données par Bachelin le jour même. et elle se reprenait à espérer. Déjà, au-dessus du salon, à l'étage supérieur, le pas vif et rapide des jeunes gens parcourant les appartements se faisait entendre. La vieille demeure s'emplissait d'un mouvement inaccoutumé, et des fredons, laissés par la baronne derrière elle, comme une trace subtile, vibraient joyeusement dans l'air. Enfin, la marquise, s'arrachant à sa méditation, leva les yeux, et, voyant le baron planté devant elle, attendant ses ordres, elle adressa au jeune homme un mélancolique sourire. « Eh bien, mon neveu, dit-elle, vous avez des confidences à me faire. Je me doute bien un peu de ce dont il s'agit, et vous m'en voyez fort peiné. » « C'est une triste affaire, en effet, ma tante, répondit soucieusement le jeune homme, et la considération dont jouit notre monde n'en sera pas accrue. Hélas, quand un des nôtres manque à son devoir, la faute commise par lui retombe sur tous ses pairs. Nous n'avons plus qu'une seule supériorité sur les autres classes de la société, c'est la fidélité à la chose jurée. On dit encore, en manière de proverbe, une parole de gentilhomme. Bientôt, en voyant que nous ne tenons pas notre promesse comme le premier venu, on ne nous reconnaîtra même plus ce suprême respect de la foi engagée, et nous aurons perdu notre dernier bon renom. » Une larme brilla dans les yeux de la marquise, et levant ses mains fines et amaigries vers le baron, « Dites-moi tout, ne me cachez rien. Je sais déjà, grâce à l'activité de mon brave Bachelin, que le duc de Bligny est à Paris depuis 6 semaines. » « Ah, vraiment, marquise, vous savez tout cela ?» dit amèrement le baron. « Et savez-vous aussi qu'il est en train de se marier ?»« De se marier ?» s'écria avec stupeur Madame de Beaulieu, en se dressant dans sa bergère, le visage tout pâle sous ses cheveux blancs. « Oui, ma chère tante, pardonnez-moi la rudesse de ma franchise, mais, en pareille matière, je pense qu'il vaut mieux aller droit au but. »« De se marier ?» répéta lentement la marquise. Le duc a fait tous ses efforts pour que la nouvelle ne s'ébruita pas, mais le futur beau-père, qui est, paraît-il, un bourgeois tout ce qu'il y a de plus vulgaire, est moins discret. Il exulte, le brave homme. Sa fille, pensez donc, sa fille, duchesse. L'histoire m'a été contée par Casteran, un ami intime de Bligny, qui sait comment la négociation s'est engagée. Et j'ai le regret d'être obligé de vous avouer, ma tante, qu'il n'est rien de plus lamentable. Imaginez-vous que le duc, à peine arrivé de Saint-Pétersbourg, s'est engagé dans une fort grosse partie qui se poursuivait au cercle depuis quelque temps. Très durement traité par la chance, il fut bientôt au bout de ses ressources qui étaient fort maigres. Il eut recours à la caisse du cercle et trouva des fonds pour faire face à ses engagements. Il continua à jouer dans de telles proportions que dans une seule semaine, ses différences se montèrent à 250 000 francs. Il paraît qu'il avait complètement perdu la tête. Il était affolé par le guignon et se jetait dans la mêlée en aveugle. En 2 soirées, il regagna tout, puis reperdit 100 000 francs. Enfin, il resta avec une culotte définitive de 200 000 francs. La marquise regarda son neveu et d'un ton interrogateur, « Une culotte ? » répéta-t-elle. « Excusez-moi, ma tante, dit le baron avec flegme, c'est le terme consacré. Pour exprimer une grosse perte au jeu, on dit une culotte. » « Une culotte de 200 000 francs, fit la marquise avec un triste sourire. « C'est de l'étoffe chère. » D'autant plus que Gaston n'avait pas le premier sou pour payer. Et dans les cercles, ces sortes de dettes s'acquittent dans les 24 heures, sous peine d'être affichées et exclues. La situation du duc était donc fort critique. Mon Dieu, il aurait pu s'adresser à la famille. Quoique toute notre fortune soit en bien fond, la baronne et moi, nous lui aurions bien trouvé une partie de la somme. Il eût pu prendre des arrangements pour le reste. Gaston ne songea point à s'adresser à nous, ou plutôt, il ne le voulut point. Casteran le lui avait conseillé cependant. Le malheureux garçon s'enferma dans sa chambre, au cercle, et se plongea dans de pénibles réflexions. Il se rendait compte qu'il avait gravement entamé sa position mondaine et qu'il avait compromis son avenir. C'est alors qu'intervint la Providence sous la forme du futur beau-père que Gaston, m'a-t-on dit, n'avait jamais rencontré qu'une seule fois. Celui-ci entra résolument en matière et tint à Bligny à peu près ce langage. « Monsieur le duc, vous devez 200 000 francs. Il faut que vous vous les procuriez dans la journée et vous ne vous les procurerez pas. » Et comme le duc se levait vivement pour couper court à un pareil entretien avec cet inconnu, le vieil homme l'arrêta net en laissant tomber ces mots. « Ces 200 000 francs, je vous les apporte. J'ai une immense fortune et je n'ai pas voulu qu'il fût dit qu'un homme tel que moi, qui donne 10 millions de dot à sa fille unique, ait laissé pour 10 misérables 1 000 louis compromettre le nom d'une des plus nobles familles de son pays. C'est énorme, ma tante, n'est-il pas vrai ? Vous comprenez bien que je ne vous garantis pas la rigoureuse exactitude des termes. Casseran a la langue très affilée et il a bien pu broder un peu. Mais c'est ainsi qu'il m'a conté l'aventure. Le malheureux Bligny fut ébloui. Il lui sembla qu'il était en face d'un homme tout en or. Et dame, la caisse de son bienfaiteur inattendu étant ouverte, il y mit le petit doigt. La main suivit et, comme dans un engrenage, tout y a passé, titre avec. Voilà comment le duc se marie. » Il y eut un instant de silence. L'obscurité était tout à fait venue. C'était à peine si, dans l'ombre, le baron apercevait la tête fièrement levée de la marquise. Le tic-tac de la vieille pendule Louis XIV faisait seul entendre sa cadence régulière. Soudain, le jeune homme vit un nuage blanc passer devant le visage de sa tante et, à un sanglot mal dissimulé, il comprit qu'elle pleurait. Il fit vivement quelques pas vers elle et, s'agenouillant aux pieds de Madame de Beaulieu sur un tabouret de tapisserie, il lui prit tendrement la main, ne trouvant pas un mot pour consoler cette douleur qui avait été plus forte que l'orgueil. « Ce n'est rien, dit doucement la marquise. Je n'ai pas été maîtresse de mon chagrin, je l'avoue, et je suis si durement frappée que je n'ai pu arrêter mes larmes. J'ai tant aimé Gaston. Il a été un second fils pour moi. » Il est de mon sang, et tout ce qu'il a fait de mal me touche doublement. Je ne comprends rien à une pareille ingratitude de sa part, car c'était un enfant généreux et un cœur loyal. Comment a-t-il pu changer si promptement ? Le monde a-t-il eu le pouvoir de défaire en quelques mois l'ouvrage de tant d'années ? Je l'ai si soigneusement, si tendrement élevé. Ah, voilà comme il m'en récompense ! Ah, l'ingrat, l'ingrat ! Profondément ému, le baron, machinalement, avait saisi sur la table le crochet d'ivoire avec lequel la marquise tricotait des camisoles pour les petits pauvres. Et d'une main irritée, il perçait avec obstination une grosse pelote de laine grise. Cependant, la marquise avait repris possession d'elle-même. Elle essuyait ses dernières larmes. « L'important, dit-elle avec fermeté, c'est que nous prenions de grands ménagements vis-à-vis de Claire. » Vous la connaissez, elle est fière, emportée. Son père était ainsi, cœur d'or mais tête de fer. Elle va être frappée en pleine sécurité. Elle me parlait encore de Gaston ce matin. L'idée qu'il peut songer à une autre femme ne lui est pas venue un instant. Elle a mis le silence, les retards du duc, sur le compte des nécessités de la situation. Son esprit n'a jamais été effleuré par le doute. Loyale et franche, elle n'attend des autres que loyauté et franchise. Dans une âme comme la sienne, une pareille désillusion peut jeter un trouble bien grave. Mais, ma chère tante, ne croyez-vous pas qu'une démarche faite auprès de Bligny ne pourrait modifier singulièrement la situation ? Gaston a été entraîné. En lui faisant mesurer l'étendue de la faute qu'il va commettre, il serait peut-être possible de le ramener. Et si vous y consentiez, je serais, moi, tout entier à votre disposition pour cette tentative. « Non, fit la marquise, avec une grande hauteur. Nous ne sommes point de ceux qui s'humilient et qui implorent. Notre position, pour triste qu'elle soit, est nette et digne. Il ne me plairait point de la changer. J'attendrai, pour apprendre à ma fille la triste vérité, que les engagements de mon neveu vis-à-vis de sa nouvelle fiancée soient irrévocables. Car, ajouta Madame de Beaulieu en souriant amèrement, avec un homme aussi capricieux que le duc de Bligny, on ne peut répondre de rien. » Et peut-être changera-t-il encore. Comme il vous plaira, reprit le baron, je ne saurais vous blâmer d'agir comme vous le faites. À dire vrai, je m'attendais à vous entendre parler ainsi. Mais j'ai considéré comme un devoir de vous faire une offre de conciliation. Advienne donc que pourra maintenant. Le beau rôle est de votre côté, et si vous avez l'occasion de verser quelques larmes en cachette, au moins vous n'aurez pas l'occasion de faire la grimace. Je n'en dirai pas autant de Bligny. Un bruit de pas rapide résonna dans le grand escalier de pierre, accompagné d'un joyeux murmure de voix. Insoucieux et rieur, Octave et Claire redescendaient avec la baronne, mise en bonne humeur par la remuante et folâtre jeune femme. La porte du salon s'ouvrit, et comme une avalanche, Madame de Préfond, précédant ses cousins, entra dans la solennelle et sombre pièce. Eh, mon Dieu, vous êtes sans lumière ! Mais c'est lugubre ! S'écria la baronne. Vous avez l'air de causer au fond d'un tombeau. Il fait noir à ne pas s'entendre parler. Ma tante, vous nous avez gâtés. Nous avons, le baron et moi, le plus bel appartement du château. Vous savez que nous allons nous trouver si bien que nous ne voudrons plus partir. Tant mieux, ma chère enfant, mais je pense que vous devez avoir gagné de l'appétit en chemin de fer. Nous allons dîner. Au même instant, et comme si la parole de Madame de Beaulieu eût été attendue, la porte de la salle à manger fut ouverte à deux battants, un flot de lumière fit étinceler les dressoirs chargés de vieilles porcelaines et de massives pièces d'argenterie, pendant que, d'une voix grave et recueillie, le maître d'hôtel laissait tomber ces paroles. « Madame la marquise est servie !»